Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous sommes heureux ce matin de pouvoir examiner la vérité de la parole de Dieu. Et je vous demande d'ouvrir votre Bible à la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première lettre, chapitre 5. Pour regarder avec moi les versets 21 et 22. Il y a 2 semaines, nous avons commencé à considérer la vérité de 1 Thessaloniciens 5, versets 21 à 22. Nous allons continuer ce matin et nous terminerons dimanche prochain. Permettez-moi de vous rappeler cette vérité avec une lecture simple et directe. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est un appel au discernement. Examinez toutes choses. Bien-aimés, c'est absolument crucial dans la vie chrétienne. Absolument crucial. La vie chrétienne est la vie la plus précise de toutes. C'est le mode de pensée et de conduite le plus discipliné. Il exige une précision rigoureuse, une compréhension, des actes en conséquence. Il demande une précision qui est conforme à une norme absolue, révélée par Dieu dans l'Écriture. La vie chrétienne est une vie qui est en parfaite et totale conformité, avec des lois fixes, commandées et habilitées par Dieu lui-même. Il n'existe pas de vie aussi précise et exigeante que la vie du chrétien, car elle exige non seulement une précision à l'extérieur en termes de comportement, mais une précision à l'intérieur en termes de pensée et de croyance. Nous n'avons pas une existence d'insouciance, une vie où nous essayons d'attraper au passage ce que nous pouvons, en toute liberté, faisant selon notre propre volonté ce qui nous fait plaisir. La parole de Dieu impose des exigences fixes pour chaque domaine de notre vie. Il n'y a pas de doctrine changeante dans le christianisme. Il n'y a pas de valeur changeante. Il n'y a pas de morale changeante. Il n'y a pas d'éthique changeante. J'ai été étonné ces dernières semaines, et vous aussi certainement, en surveillant toutes ces rencontres majeures entre les différentes dénominations, les méthodistes, les épiscopaux et les presbytériens, qui sont en train de voter de nouvelles théologies, de nouvelles morales, de nouvelles normes éthiques, pour changer la tradition de ce qui a été cru dans le passé. Et comme un leader presbytérien que j'ai entendu lors d'une interview à la radio a déclaré, « Si nous ne modifions pas nos mœurs pour accommoder le monde d'aujourd'hui, nous perdrons tous nos membres. » Dans le vrai christianisme, bien sûr, la morale ne change pas. Il n'y a pas de valeur changeante, d'éthique changeante, de doctrine changeante. Nous devons vivre dans une forme de réflexion disciplinée, avec une conduite disciplinée. Au fond de ce mode de vie discipliné et précise, il y a la nécessité d'un discernement. Nous devons être en mesure de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Nous devons être capables de discerner la vérité par rapport à ce qui est vrai, qu'en partie seulement, et différencier la vérité de l'erreur. Et quand l'Église perd sa capacité à discerner, elle perd sa théologie précise, elle perd sa morale, ses valeurs, son éthique et ses doctrines précises, et abandonne donc tout espoir de vivre justement, de conduire de manière précise. Quand vous regardez le christianisme aujourd'hui et que vous le voyez rempli d'immoralité, avec un engagement au plus bas niveau en ce qui concerne la sainteté, vous devez comprendre que ce type de conduite imprécise est le résultat d'une réflexion imprécise qui est le produit d'un manque de discernement. Le christianisme évangélique est dans un grave état de confusion. Il n'est pas sûr de savoir comment il est censé agir, parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il est censé penser, parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il croit. Une théologie diluée ne produira pas un profond respect, un culte profond, une profonde repentance, une humilité profonde, une compréhension profonde de Dieu, de sa nature, son travail, son ministère, ses lois, ses normes, ses principes. Elle ne parvient pas à centrer les gens sur Dieu. L'Église d'aujourd'hui, attirée par la pensée relativiste de la doctrine, la pensée relativiste de la morale, ne peut donc pas produire une vie précise, disciplinée. Le discernement est donc crucial. Paul le savait, quand il l'avait mis dans cette petite liste. à partir du verset 16. Il nous donne ce qui équivaut à une synthèse composite des éléments très cardinaux de la vie chrétienne. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Cela concerne votre attitude envers Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties que Dieu a données, c'est-à-dire la parole révélée. Et ensuite, examinez toutes choses. Ce sont les éléments qui sont au cœur de la vie chrétienne. Paul, alors, nous appelle à quelque chose de très basique quand il dit « Mais examinez toutes choses ». Ce n'est pas facile à faire. Il y a trois raisons pour cela. Premièrement, à cause de la faiblesse humaine. Notre esprit est corrompu. Notre réflexion est faussée. Nous sommes déformés et cherchons nos propres intérêts. Nous sommes affaiblis par la chair humaine non régénérée, qui a une propension au péché. Nous devons donc lutter contre la faiblesse humaine. Notre esprit est dépravé. Deuxièmement, nous suivons la tromperie satanique. Il y a une attaque continue contre l'Église par le roi des ténèbres, le prince de ce monde, et il fait tout son possible pour confondre l'Église. Troisièmement, vous avez l'influence incontournable et inondant du monde impie qui nous entoure. Entre le monde, la chair et le diable, le processus de discernement spirituel peut être facilement affaibli. Malheureusement, l'Église est tombée dans le chaos et la confusion sous cet assaut. Elle est incapable aujourd'hui de discerner le vrai du faux, le bien du mal, et cela crée une doctrine imprécise, une conduite imprécise. En fait, aussi essentielle que pour la vie chrétienne précise, le discernement et la discrimination ne sont pas populaires aujourd'hui, même dans l'Église. Si vous prenez une position ferme en ce qui concerne certains problèmes, vous êtes regardé de travers. Maintenant, cela signifie qu'un appel au discernement est approprié. En vous appelant au discernement, et en vous aidant à comprendre l'expansion et l'élucidation de la vérité de ces deux versets, je souhaite vous poser trois questions. Nous allons répondre aux deux dernières questions dimanche prochain. Revenons à la première question que nous avons commencé à travailler lors de notre dernière étude. Pourquoi un tel manque de discernement? Je vous ai déjà montré les influences de la faiblesse de la chair, la tromperie satanique et l'influence du monde. Mais pourquoi est-ce que l'Église en a été victime? Quels sont les facteurs qui ont conduit à ce manque de discernement? D'abord, je vais passer en revue, et j'en ajouterai d'autres encore. La dernière fois, je vous ai dit que le principal contributeur à ce manque de discernement est un affaiblissement de la clarté et de la conviction doctrinale. Il y a aujourd'hui une attaque contre la doctrine. Toute attaque contre la doctrine est finalement une agression contre Dieu. C'est une agression qui nous empêche de connaître Dieu en vérité, de connaître sa vérité correctement. Donc c'est une agression en ce qui concerne son personnage, et une agression qui attaque la précision de l'adoration. C'est aussi une agression sur la moralité. Les églises d'aujourd'hui ne sont pas principalement concernées par la doctrine en tant que telle. Elles sont pour la plupart, et bien sûr, il y a des exceptions à cela. Elles sont surtout préoccupées à veiller à ce que nous soyons aimants, unis, et que nous ne cherchions pas la division, que nous soyons relationnels, sans confrontation, sans offenser personne. Nous cherchons à faire des expériences. Nous voulons nous occuper de nos sentiments et de nos émotions. Nous voulons que les gens se sentent mieux dans leur peau. Nous voulons qu'ils soient satisfaits dans leur vie. Nous voulons qu'ils soient à l'aise. Et donc, notre herméneutique dominante a un rapport avec tout cela. Et je vous ai dit la dernière fois que les libéraux ne pouvaient pas nous vendre leur théologie. Alors, ils nous ont vendu leur herméneutique. Qu'est-ce que l'herméneutique? C'est un mot grec. Hermeneuo, qui signifie interpréter. Ils ne pouvaient pas nous vendre leur théologie. Alors, ils nous ont vendu leurs principes pour interpréter l'Écriture. Leurs principes sont que vous interprétiez la Bible à la lumière de ce qu'est l'amour, de ce qui est unifiant, de ce qui n'est pas menaçant, de ce qui n'est pas offensant, de ce qui est non oppositionnel, de ce qui ne cherche pas la division, de ce qui fait que les gens se sentent bien et confortables et relationnel, de ce qui leur apportera la joie, la satisfaction, le bonheur et l'accomplissement de soi. Si vous lisez la Bible avec tous ces principes d'interprétation, vous allez proposer une théologie libérale. Ils nous ont vendu leur herméneutique au lieu de leur théologie, qu'ils savaient que nous n'achèterions pas, mais la fin sera pareille. En fait, aujourd'hui, vous entendez que le christianisme pertinent n'est pas doctrinal. J'ai vu l'annonce d'une église dans un avion cette semaine qui a fait cette déclaration. Êtes-vous fatigué des services religieux traditionnels? Êtes-vous fatigué de je ne peux pas me rappeler exactement les mots spécifiques. La prédication ennuyeuse, qui n'est pas pertinente. L'hypothèse, c'est que tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est biblique, tout ce qui est exposé, n'est en quelque sorte pas pertinent. C'est un point de vue assez omniprésent. Il y a quelques mois, une thèse m'a été envoyée par un jeune homme qui l'a écrite pour compléter son doctorat. Il l'a écrite en comparant ma prédication à un autre prédicateur bien connu. Son évaluation finale à mon sujet, à la fin de la section, était « MacArthur est précis mais sans pertinence. Il raconte la vérité, mais n'est pas pertinent. Maintenant, je ne sais pas comment la vérité peut être sans pertinence. De l'autre côté, alors, il faudrait raconter des mensonges pour être pertinent. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. La pertinence est associée à la prédication de la parole de Dieu, en étant dogmatique ou en parlant sincèrement de la vérité aujourd'hui. Ainsi, l'adoration, la prédication et la conduite reflètent ce faible engagement doctrinal. Je peux penser à tellement de tendances incroyables au cours des 5 à 10 dernières années. Même les stations de radio, qui étaient autrefois désireuses de diffuser tout ce que nous prêchions, nous écrivent maintenant et nous disent « Si vous traitez ce problème ou celui-là, nous ne le diffuserons pas, car cela offenserait certains de nos auditeurs, et nous voulons leur montrer notre amour. Nous voulons être aimants aussi, mais vous dites la vérité avec amour. De toute évidence, le discernement ne va pas s'épanouir dans une atmosphère de pensée floue. Regardez 2 Timothée pendant un moment, chapitre 4. Dans 2 Timothée, chapitre 4 et verset 1, Timothée est chargé solennellement d'une charge assez intimidante. Paul dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. En d'autres termes, je veux que tu subisses beaucoup d'intimidation. Je veux que tu sois rempli de beaucoup de motivation. Tu es surveillé par Dieu. Tu es surveillé par Jésus-Christ, qui va tout juger. Et je te le dis, Timothée, verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. En d'autres termes, quand cela est toléré ou non toléré, populaire ou impopulaire, accepté ou non accepté, vous prêchez la parole. Et comment va-t-il prêcher? Il va reprocher et réprimander. Il exhortera. Il faut le faire avec beaucoup de patience et d'instruction. C'est le mandat. Nous devons prêcher la parole en toute saison. Nous supposons que cela va réprimander les gens ou les convaincre. Nous assumons le fait que cela les accusera ou fera en sorte qu'ils cherchent à renverser leur conduite et leurs croyances. Nous pensons que cela les exhortera. C'est un mot qui signifie « cela les avertira du jugement et les invitera à changer de conduite. C'est ainsi que nous devons prêcher. » Puis, dans le verset 3, il dit « car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La responsabilité principale de tout prédicateur et de tout pasteur est de s'assurer qu'il prêche la parole à son peuple pour lui donner une saine doctrine. Cela ne sera pas toujours ce qu'ils veulent, ce sera toujours ce dont ils ont besoin. Quand ils commencent à courir vers les enseignants qui chatouillent leurs oreilles, qui les aident à se sentir bien, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre en répondant à leurs propres désirs, ils se détourneront de la vérité pour aller chercher des mythes. Le discernement ne se développera pas dans une atmosphère telle que nous l'avons aujourd'hui, qui est décrite de manière caractéristique, je pense, comme une confusion doctrinale plutôt que comme une conviction doctrinale. Il y a une deuxième cause que j'ai notée pour vous dans notre dernier message, et qui contribue également à ce manque de discernement. C'est que nous ne sommes plus antithétiques, et cela suit exactement le premier problème du discernement. Cette culture ne veut pas être antithétique, elle ne veut pas débattre, elle ne veut pas polémiquer, elle veut être relativiste. Nous ressentons les incursions d'il y a des années de l'existentialisme, du subjectivisme. Les gens veulent que tout soit dans un large spectre de relativité. Il n'y a pas de problème noir et blanc, de problème absolu. Mais la prédication biblique et l'enseignement sont absolus. Ils divisent, ils confrontent, ils séparent, ils jugent, ils condamnent, ils reprochent, ils réprouvent, ils exhortent. Et ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Nous voulons le plaisir et les jeux. Nous voulons faire de la danse. Nous cherchons de la légèreté, en tout. Et nous ne voulons offenser personne. Ce n'est pas un jour pour débattre. Ce n'est pas un jour pour polémiquer. Ce n'est pas un jour pour tracer une ligne en disant « Voici la vérité, et tout le reste est faux, évidemment dans un contexte relativiste où il n'y a pas le désir d'être antithétique. Quand nous essayons de comparer une thèse avec une antithèse et de voir ce qui est vrai, le discernement ne va pas survivre à notre culture, à notre époque de relativisme doctrinal. Regardez Tite 1.9. Nous avons des instructions pour un ancien ou un pasteur, et il doit tenir ferme à la parole fidèle, qui est conforme à l'enseignement, et il exhorte à la foi, avec une doctrine solide, et réfute ceux qui la contredisent. Il est mandaté par Dieu pour que nous soyons antithétiques, que nous soyons en conflit avec l'erreur. Nous devons le faire, ou nous ne remplissons pas notre vocation divine. Mais là où cela n'est pas toléré, où vous n'êtes pas autorisé à prêcher la vérité qui divise, vous ne pouvez pas dire que vous avez tort, que c'est une erreur qui doit être corrigée, car l'amour, l'unification, le relationnel, l'herméneutique dominent, et le discernement ne peut pas survivre. Troisièmement, la dernière fois, je vous ai dit qu'un autre contributeur à la disparition du discernement dans l'Église vient de la préoccupation de l'image et de l'influence comme la clé de l'évangélisation. L'Église a acheté l'idée, un mensonge, que, afin d'atteindre le monde, nous devons être bien vus par le monde, nous devons être gentils et inoffensifs, acceptants et accommodants, nous devons faire en sorte que les pécheurs se sentent à l'aise, nous devons rendre l'Église chaleureuse et accueillante, nous devons faire en sorte que les pécheurs se sentent bien, heureux et amusés. S'ils nous aiment, ils aimeront Jésus. On croit que l'image et l'influence sont des outils d'évangélisation plus puissants que la prédication de la parole inspirée et puissante de Dieu. Évidemment, le discernement ne survit pas dans une atmosphère de confusion doctrinale. Il ne survit pas dans une atmosphère de relativisme moral. Il ne survit pas dans une atmosphère de compromis avec le monde. Et pourtant, c'est ce que l'Église accepte aujourd'hui. Elle s'accommode de tout ce qui fait un monde non régénéré, en essayant de gagner son approbation. Au lieu d'être la lumière qui tourne et révèle le péché, elle veut être sombre pour qu'il puisse être avec nous pour longtemps. Et qu'ils n'aient jamais vraiment affronté cela. Ils peuvent simplement profiter de notre gentillesse. Maintenant, je veux être aimant. Je veux être plein de grâce. Et je veux voir les pécheurs se repentir. Mais je sais que la seule façon pour que cela arrive est de confronter leurs péchés, pour qu'ils acceptent la réalité de leur éternelle fatalité. Dans 1 Corinthiens 4, je vous l'ai souligné, mais je vous rappelle simplement ceci. L'apôtre Paul avait une philosophie de ministère assez différente. Il a dit de son propre ministère, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Paul n'était pas populaire dans le monde. L'Église n'a jamais cherché à être populaire, n'a jamais cherché à être influente dans le sens où elle nous accepte comme nous sommes. Elle n'a jamais pensé que l'image était la question clé, que notre érudition académique était ce qui gagne le monde, ou que la qualité amusante de notre service, ou notre tolérance gentille et non menaçante pourrait faire venir les non-convertis à l'Église. Mais c'est l'esprit aujourd'hui. Une théologie faible, une réticence à être absolue en termes de doctrine, et une préoccupation de notre stratégie de commercialiser l'Évangile dans le monde, par l'image et l'influence, et le prestige a tué le discernement. Maintenant, laissez-moi vous conduire à une quatrième raison, le défaut d'interpréter correctement l'Écriture. Vous me connaissez assez bien pour savoir que cela doit être proche de mon cœur, et c'est le cas. Quand j'étais à l'université, j'avais un grand désir de vouloir apprendre à interpréter l'Écriture. Je savais qu'il y avait un chemin pour y arriver. Donc, ma première année au collège, je me suis inscrit à 5 unités de grec au premier semestre et 5 unités de grec au deuxième semestre. J'ai pris 10 unités. Ma deuxième année, j'en ai pris 3 chaque semestre. Lors de ma troisième année, j'en ai pris 3 chaque semestre. Et lors de ma quatrième année, j'en ai pris 2 chaque semestre. Je suis diplômé de tout ce contexte grec, parce que je croyais que si je voulais interpréter, principalement mon ministère serait au sein du Nouveau Testament. Je devais savoir comment l'interpréter dans sa langue originale. Je suis allé au séminaire, et j'ai pris 3 années de grec. J'ai pris quelques années d'hébreu. J'ai étudié la théologie, et j'ai essayé de me discipliner dans la compréhension de la doctrine, de l'histoire de l'Église, de l'histoire de la culture, de la philosophie, et toutes les choses qui pourraient enrichir et améliorer ma compréhension du contexte et de la compréhension de l'Écriture. J'ai essayé, au cours des années, d'appliquer les choses que j'avais apprises, afin de distribuer, à juste titre, la vérité. Être capable d'interpréter l'Écriture est crucial, en particulier pour une personne dans ma position. Parce que Jacques 3, verset 1 dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Celui qui se dirige vers l'enseignement ferait mieux de se rendre compte que, lorsqu'il prend le profil de l'enseignant, il apporte sur lui-même une condamnation plus grande, car maintenant il est responsable non seulement de ce qu'il croit et affirme, mais de ce qu'il a prêché à tous et affirmé à ceux qui l'ont écouté et cru. Il existe une science très pointilleuse dans l'interprétation de la Bible, une science très exacte. Certains de nos hommes me disaient récemment qu'il parlait à un prédicateur célèbre en Amérique, et l'un d'eux lui a demandé « Qu'est-ce que vous allez prêcher ce dimanche ?» C'était probablement le milieu de la semaine, et il a dit « Oh, je ne sais pas encore, je me prépare le samedi soir. » Vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu comme cela, ce n'est pas quelque chose de fantaisiste. Mais vous avez aujourd'hui dans les églises beaucoup de prédicateurs qui n'appliquent pas la discipline de la science de l'interprétation de l'Écriture. Ils traitent la parole à la légère, superficiellement. Ils prêchent de manière relationnelle, avec une sorte de psychologie quasi-chrétienne, où ils racontent beaucoup d'histoires, et par conséquence, ils n'interprètent jamais vraiment la parole de Dieu. Et puis vous ajoutez à cela le fait qu'il y a une sorte de nouvelle élévation de chaque chrétien, qui pense atteindre le niveau d'un expert pour interpréter les Écritures. Tout le monde à la queue leu-leu semble avoir l'impression qu'il peut interpréter la Bible, quand, en fait, à moins d'avoir écouté de bons enseignements sur l'interprétation des Écritures, ou d'avoir lu bien des livres écrits par quelqu'un qui sait, il est très peu probable que ce soit vrai, même s'ils sont très spirituels et qu'ils aiment le Christ. Les personnes qui ont eu une formation insuffisante de la Bible, mais qui ont eu une formation préalable dans un autre domaine, estiment qu'elles peuvent s'en servir pour interpréter l'Écriture. Beaucoup de gens pensent que, parce qu'ils sont chrétiens, ils peuvent l'interpréter pour eux-mêmes, avec peu ou pas de formation, même s'ils n'ont pas assisté à une étude approfondie des Écritures, afin d'apprendre à interpréter en écoutant ceux qui le font. Nous avons en quelque sorte mis tout le monde au même niveau, et tout le monde a les mêmes droits d'écrire des livres sur la Bible et d'interpréter les Écritures, peu importe qui ils sont et peu importe leur préparation. Et vous pouvez ajouter un autre problème qui mène à ce manque d'interprétation correcte, et c'est le mouvement charismatique qui envahit le monde, et qui dit essentiellement que si vous venez de lire la Bible, d'une certaine manière, Jésus vous dira ce qu'elle signifie. D'une façon ou d'une autre, cela se manifeste à l'intérieur de vous mystiquement, ce qui élimine tout besoin d'interprétation. Au fait, pratiquement toutes les sectes et tous les faux enseignements jamais conçus ont commencé sur les prémices que Jésus leur a donné une nouvelle révélation. C'est une chose très effrayante, car c'est tellement répandu. Vous entendez des gens tout le temps, si vous écoutez la radio ou regardez les programmes chrétiens à la télévision, qui viennent et font des interprétations, parlant de la façon dont Jésus leur a dit telle chose, et Dieu leur a montré qu'il n'y avait pas besoin d'interpréter la Bible, parce que cela vient de l'intérieur de votre être. Bill Heyman, par exemple, dirige un réseau de ministères prophétiques charismatiques. Il conseille aux gens d'ignorer la raison, la logique et les sens lorsqu'ils tentent de discerner la vérité. Ignorez la raison, la logique et les sens lorsque vous essayez de discerner la vérité. Il écrit, je le cite, « Nos traditions, nos croyances et nos opinions fortes ne sont pas des témoins véritables de la vérité prophétique. » La réaction de l'esprit vient du fond de notre être. Beaucoup de chrétiens décrivent l'emplacement physique de cette sensation comme venant du haut de l'abdomen. Entendez-vous ce qu'il vient de dire? Si vous voulez connaître la vérité, cela se traduit par une réaction dans votre région abdominale. Un témoin négatif avec un message de « non, sois prudent » ou « quelque chose ne va pas » se manifeste généralement par un sentiment de nervosité ou une sensation de mal-être. Alors vous lisez les Écritures et vous attendez que quelque chose se fasse ressentir dans le haut de l'abdomen. Il poursuit. Il y a une sensation profonde, presque inintelligible, que quelque chose ne va pas. Ce sentiment ne peut être ressenti que lorsque nous sommes plus en communion avec notre esprit qu'avec nos pensées. Qu'est-ce que c'est? Du charabia. des absurdités. Il dit en outre, si notre pensée est à l'origine de ces sensations, il peut s'agir d'une réaction uniquement de notre âme. Alors, avec un sentiment insensé, irrationnel, du néant, vous êtes assis là, et vous attendez ce sentiment nerveux qui va se manifester en haut de l'abdomen. Si cela arrive, alors ce n'est pas vrai. Vous devez proposer une autre interprétation. D'autre part, lorsque l'Esprit de Dieu témoigne avec notre esprit qu'une parole prophétique est juste, vous avez trouvé la vérité, et notre esprit réagira avec le fruit du Saint-Esprit. Nous avons une paix et une joie profondément inexplicables, un sentiment chaleureux d'amour, ou même le sentiment que notre esprit saute de haut en bas avec excitation. Cette sensation nous permet de savoir que le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit que tout est en ordre, même si nous ne pouvons pas le comprendre. En d'autres termes, ignorez votre esprit, oubliez vos croyances, méfiez-vous de votre théologie, rejetez votre bon sens et ne prenez jamais de pastilles rénies, ce qui dérangera le processus du Saint-Esprit. Ne mettez pas en danger le haut de votre zone abdominale, car après l'esprit ne pourra pas vous conduire. Je ne trouve même pas de mots pour décrire une telle idiotie. C'est une absurdité totale. Vous ne le trouverez pas dans les Écritures. Nous ne lisons pas la Bible pour ensuite nous asseoir, pour attendre un sentiment dans la partie supérieure de l'abdomen, pour déterminer ce qu'est la vérité. L'indigestion, les problèmes cardiaques, c'est ridicule. Pourrait-vous donner les mêmes sensations, voire même plus grandes? Et pourtant, combien de personnes suivent ce genre de conseils? Des millions. Ensuite, ils changent leur adhésion en allant d'une église à l'autre et donnent leurs économies à ce ministère. Le prix de la mysticité charismatique et du subjectivisme est beaucoup trop élevé. Tout le monde est libre de faire, de dire et d'enseigner ce que la partie supérieure de l'abdomen lui dit. Et l'unicité, la centralité et la nécessité d'interpréter les Écritures ont été éliminées. Donc, d'une part, vous avez des gens qui pourraient peut-être interpréter la parole. Mais ils ont opté pour la psychologie chrétienne et deviennent conteurs d'histoires. D'autre part, vous avez des gens qui n'ont vraiment pas les outils nécessaires pour l'interpréter, mais ils y jettent quand même un coup d'œil. Et puis, vous avez un troisième groupe de charismatiques qui sont assis, attendant une sensation qui leur dira ce qui est juste. N'est-il pas étonnant que nous ne comprenions pas la vérité, parce que nous étudions les Écritures de la mauvaise façon? La lettre suivante a été écrite à une connaissance par un jeune homme dans le mouvement charismatique. Cela illustre cette attitude typique envers les Écritures. Voici la lettre. La plus grande expérience de l'amour que j'ai jamais eue était au pied de la croix, puisque le sang de Jésus-Christ a été répandu sur moi. Il m'a rempli de son esprit. Il m'a amené à travers la vallée dans la ville de Jérusalem, dans le sein des saints. Là, j'étais en lui et lui en moi. J'ai reçu le baptême comme par le feu. Et depuis son amour demeure en moi. Depuis ce moment, j'ai la communion tous les jours. Eh bien, tout ce paragraphe est assez mystique pour moi. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne pense pas qu'il veuille vraiment le baptême du feu. C'est un jugement, mais nous pouvons excuser cette erreur pour le moment et lire la suite de la lettre. Je ne ressens pas le besoin d'étudier les Écritures, car je connais Jésus puisqu'il s'est révélé à moi, à l'intérieur de mon être. Et comme il habite en moi, il y a la parole. Les Écritures sont une source secondaire. Comprenez-vous pourquoi les gens ne savent pas discerner? Parce qu'ils n'ont pas de normes pour le discernement. Comprenez-vous pourquoi les gens peuvent s'asseoir lors des débats télévisés et continuer à défendre des choses bizarres, des choses sauvages, et personne ne dit jamais « ça suffit, arrêtez, c'est faux ». Ce n'est pas dans la Bible, cela ne peut pas être défendu. Personne ne le dit jamais parce que l'expérience est le validateur. Les réformistes se sont battus pour avoir une interprétation correcte de l'Écriture. Maintenant, au XXe siècle, l'Église va devoir s'engager dans la même bataille. Mais cette fois-ci, nous ne combattrons pas les catholiques, nous combattrons les protestants, qui sont tombés dans le même genre d'ineptie en traitant les Écritures. La parole doit être correctement interprétée. Elle produira toute la vérité nécessaire pour mener une vie sainte, si elle est bien comprise. Regardez 2 Timothée, chapitre 2, pour un moment. Je souhaite vous montrer un terrain familier pour améliorer votre compréhension. Dans 2 Timothée 2, verset 15, Paul dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est très simple. « Efforce-toi » a été traduit par « d'étudier devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. » qui dispense droitement la parole de la vérité, l'implication du verset, et que si vous ne manipulez pas correctement la parole, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Si vous ne voulez pas avoir honte et que vous voulez gérer votre vie avec précision, n'attendez pas une sensation dans la partie supérieure de l'abdomen. Étudiez avec diligence et cherchez l'approbation de Dieu en tant qu'employé, artisan qualifié, dispensant droitement les Écritures. Cela nous permet en passant d'approfondir la précision requise dans l'interprétation biblique. Pourtant, rappelez-vous ceci, les gens ne se déplacent pas vers une fausse doctrine exprès. Ils ne disent pas tous « Je veux trouver une fausse doctrine. Je veux trouver le mensonge. Je cherche une déception. » Non, ce n'est pas exprès, ni par motivation qu'ils errent si terriblement. C'est par paresse, ineptie, insouciance, par la folie dans la manipulation des Écritures. Regardons le verset 17 et rencontrons deux personnes qui illustreront ceci, Hyménée et Philète. Il dit qu'ils sont des hommes, verset 18, qui se sont égarés de la vérité. Maintenant, arrêtez-vous à cet endroit-là. Ce petit verbe « se sont égarés » signifie qu'ils ont manqué ce qu'ils visaient. L'idée ici est qu'ils visaient la vérité, mais ils l'ont tout simplement manqué. Les gens n'adhèrent pas à l'erreur parce qu'ils la cherchaient. Les gens croient l'erreur parce que, dans le processus de la recherche de la vérité, ils n'ont pas su comment la trouver, ils n'ont pas fait l'effort, ou ils n'avaient pas les outils nécessaires. Ils ont manqué le tir. Ils ont peut-être eu le bon objectif, la vérité, mais ils l'ont manqué, et ils ont eu une idée ridicule. Ils ont cru que la résurrection des saints avait déjà eu lieu. Maintenant, comment comprenez-vous cela? Vous allez dire aux gens qu'ils sont déjà décédés et qu'ils ont été ressuscités. Vous direz, « Eh bien, attendez une minute. Je saurai si je suis mort et ressuscité. Vous ne pouvez pas me tromper avec cela. Bien sûr que je peux. » Ils doivent avoir trouvé l'idée que c'était une sorte de résurrection spirituelle, que la seule résurrection qu'il y aura est spirituelle, mais qu'elle avait déjà eu lieu. Peut-être étaient-ils les annihilationnistes originaux, ayant l'idée que lorsque vous êtes mort, vous sortez de l'existence, vous avez l'âme en sommeil, ou quelque chose comme ça. Peut-être ils disaient que les chrétiens avaient déjà eu toute la résurrection qu'ils devaient recevoir, qu'il n'y aurait pas de résurrection future, et que la résurrection est spirituelle. Et vous savez quoi? Ils bouleversent la foi de certains, car pour chaque idée idiote, il y a des gens qui adhèrent, n'est-ce pas? Surtout dans le sud de la Californie. Faites pousser la barbe, mettez un peignoir, allez à la plage, dites que vous êtes Moïse. Vous aurez 50 partisans en une demi-heure. Il y a toujours un groupe qui vous suit. Ce n'était pas qu'ils visaient l'erreur. C'était qu'ils visaient la vérité avec maladresse, négligence, paresse, stupidité. Et ils ont accepté des erreurs. Et maintenant, revenez au verset 15. Ne soyez pas comme Hyménée et Philète. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous devez avoir une intégrité consciente devant Dieu, dont le jugement est toujours précis. Le gestionnaire de la parole ne devrait jamais avoir honte, parce qu'il n'a pas utilisé toutes les ressources et toute l'énergie nécessaire pour faire un travail de qualité et maîtriser l'interprétation réelle. Il y a beaucoup de prédicateurs, chers amis, qui sont populaires auprès des hommes, mais honteux devant Dieu. Si je représentais mal la vérité, j'aurais honte devant Dieu. Le mauvais travail dans la parole est intolérable. Elle doit être manipulée avec précision, partagée avec justesse. Les gens disent aujourd'hui, « Eh bien, si vous dites cela, que vous dites que tel et tel prédicateur est faux, alors cette interprétation est fausse dans 1 Chronique 16, verset 22. Ne touchez point à loin du Seigneur. Eh bien, si quelqu'un enseigne l'erreur, il n'est pas loin du Seigneur. Nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est la préservation de la vérité. Si nous n'interprétons pas les Écritures avec précision, si nous sommes préoccupés par l'image du monde, si nous ne sommes pas antithétiques, que ce soit par un manque de clarté ou de conviction de doctrine, toutes ces choses vont littéralement tuer le discernement. Comment discerner si la doctrine n'est pas un problème? Comment pouvons-nous discerner si nous ne voulons pas dire que c'est juste ou que c'est faux et se débarrasser de la relativité? Comment pouvons-nous discerner si nous essayons de compromettre et de rendre le monde confortable? Comment peut-on discerner si nous ne savons même pas comment interpréter correctement l'Écriture? 2 autres vérités pour terminer, très brièvement. Le défaut de discipline dans l'Église. Bien-aimés, voici un problème vraiment sérieux, et je veux simplement le mentionner brièvement. mais écoutez attentivement ce que je dis. Un point important à mentionner. La discipline dans l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est confronter le péché dans les vies individuelles. Si votre frère pêche, allez chez lui, confrontez-le, essayez de le relever, essayez de le reconstruire, de le fortifier. Encouragez-le à se repentir. Jésus a dit, si quelqu'un pêche, allez chez lui. S'il ne se repent pas, prenez une ou deux autres personnes avec vous. S'il ne se repent pas, dites-le à toute l'Église. Et s'il ne se repent toujours pas, mettez-le dehors. Paul a dit, ne mangez pas avec lui. Ne le traitez pas comme un ami, en acceptant tout ce qu'il fait. Mais aimez-le comme un frère, et priez pour sa repentance. Paul a dit à l'Église corinthienne de le renvoyer à Satan pour que son corps soit détruit, ainsi que sa chair par le châtiment. L'Église doit montrer une norme sainte, un haut niveau. Il y a des moments où nous devons affronter le péché. Il y a 2 semaines, un membre de notre Église m'a amené avec lui pour confronter un homme pécheur qui avait quitté sa femme et qui vivait avec une fille qui n'est pas sa femme. Nous l'attendions et lui avons déclaré « Nous sommes là pour vous rappeler à la sainteté et nous voulons prier pour vous et avec vous. S'il ne se repent pas, vous allez en entendre parler, car nous devons suivre ce processus. Maintenant, écoutez attentivement. Lorsque vous disciplinez dans l'Église, cela signifie que vous faites face au péché. Vous mettez un mur entre le monde et l'Église. Pas d'exception. Vous avez mis un mur entre le monde et l'Église. Parce que si vous confrontez quelqu'un au sujet du péché et qu'il ne cesse pas de pécher, vous le renvoyez. Peut-être qu'il n'est même pas chrétien, mais cela garde le mur très clair. Voici les gens qui marchent dans l'obéissance au Seigneur, et voici ceux qui ne le font pas. Et ce mur de séparation entre l'Église et le monde est crucial. Mais aussi que vous vous arrêtez de discipliner le péché, le mur descend, le monde se mêle à l'Église, et vous ne pouvez plus faire la différence. Le monde se sent à l'aise, et vous ne savez pas si vous avez affaire à des croyants ou des non-croyants. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a tué Ananias et Saphira devant l'Église entière? Maintenant, aujourd'hui, un expert en marketing dans l'Église, le stratégiste qui étudie la croissance de l'Église, dirait que c'était un acte stupide de la part de Dieu, car il a donné une mauvaise réputation à l'Église. Vous savez quelle était la réputation de cette Église. Ne vous joignez pas à cette organisation, car les gens y meurent. La parole traversait la ville comme un feu sauvage. 2 personnes se sont présentées pour l'offrande et n'ont pas donné ce qu'elles avaient dit qu'elles donneraient à Dieu, et elles sont mortes. C'est sensationnel. Restez en dehors de cette organisation. Est-ce pour le marketing? C'est comme tenir un restaurant où les 2 dernières personnes qui y ont mangé sont mortes. Est-ce pour la publicité? Vous ne souhaitez pas vous joindre à cette organisation. Les gens meurent. Ils sont sérieux au sujet du péché là-dedans. Vous savez, s'ils vous trouvent en train de pécher, ils viennent vers vous et ils vous confrontent. Et si vous ne changez pas, ils parlent publiquement de vous. J'ai entendu parler d'une église cette semaine qui a une règle de 2 ans et l'un de ses membres m'a raconté que si quelqu'un venant dans son église vivait dans une situation pécheresse, il parlait d'un homosexuel. Ils ne veulent rien dire pendant au moins 2 ans, jusqu'à ce que la personne se sente très à l'aise et acceptée, et alors ensuite ils la confronteront. Vous savez à quoi cela me fait penser? Si un homosexuel peut s'asseoir dans une église et être à l'aise et accepté pendant 2 ans, cette église n'a pas dit ce qu'elle est censée dire. Je ne pense pas qu'un homosexuel puisse venir à Grace Community Church pendant 2 ans, confortable ou pas. Il va se dire, je sors de cet endroit. Je n'ai pas besoin d'écouter ce gars. Qui a besoin de ça? Ou il va se repentir? Je reçois des lettres, beaucoup de lettres intéressantes. Certains même d'homosexuels qui viennent une fois et m'écrivent des lettres étonnantes sur leur colère et leur hostilité, et d'autres pécheurs de diverses sortes. Il ne faut pas tolérer le péché du tout dans l'Église, ou bien vous devez tolérer tous les péchés en général, car vous avez détruit la sainteté de l'Église, et elle ne peut pas discerner. Où allez-vous mettre des limites? Vous avez déjà dit que vous ne mettrez pas de limites. Vous voulez que tout le monde se sente bien. Vous voulez tolérer un compromis, au point que le discernement et la discrimination ne soient pas tolérés. Regardez 1 Pierre 4, verset 17. C'est aussi simple que possible en termes de compréhension. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est la manière de Pierre de dire « Regardez, commencez à diviser, commencez à vous séparer, commencez à faire face, commencez à évaluer, commencez à juger la vie des gens dans l'Église. Vous ne pouvez pas accueillir des chrétiens pécheurs. Et certainement, si nous traitons le péché avec beaucoup d'ardeur dans notre Église, c'est parce que Dieu nous a dit de le faire. nous reflétons le désir de voir la sainteté de Dieu, et dit que si cela commence avec nous, d'abord, quel sera le résultat pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ce que Pierre dit, c'est, regardez, si Dieu veut que nous jugions le péché parmi nous, imaginez comment il jugera le péché parmi ceux qui le rejettent. Nous ne pouvons pas réduire la norme. Nous ne pouvons pas accumuler des chrétiens pécheurs ou des pécheurs non chrétiens. Nous devons purger, discipliner, tamiser et purifier. Et si Dieu le fait à sa propre Église comme première priorité, alors qu'est-ce qu'il va faire aux mécréants dans le monde? Donc, si nous prêchons le jugement, le châtiment et la pureté dans l'Église, nous devons prêcher le jugement, le châtiment et le salut aux perdus. Nous devons affronter leurs péchés. Commencez ce jugement dans l'Église, dit-il. Et souvenez-vous, si Dieu veut que son Église soit pure, il la jugera, si ce n'est pas le cas. Mais que pensez-vous qu'il fera aux non-croyants? Et puis, verset 18, une déclaration étonnante tirée des Proverbes. Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Qu'entend-il par là? Si nous entrons à peine, que voulait-il dire par là? Eh bien, nous péchons, et le Seigneur nous châtie. Et c'est assez difficile d'être chrétien, sentant la main châtiant du Seigneur. S'il est difficile pour nous de le faire, parce que nous continuons à tomber dans le péché, et que Dieu doit nous juger, qu'est-ce qu'il va faire aux impies? Nous devrions envoyer un message au monde, et vous savez quel devrait être le message. Le message ne devrait pas être « Nous sommes dans un endroit agréable, vous nous aimerez ». Le message devrait être « C'est un lieu saint où nous traitons le péché, c'est le message ». Non pas « C'est un endroit joyeux, c'est un lieu saint, c'est un lieu sacré ». Non pas « C'est un endroit que vous aimerez, c'est un endroit que vous ne voudrez pas si vous ne traitez pas le péché, si vous ne venez pas au Seigneur, si vous n'êtes pas disposé à vivre une vie sainte ». Non, l'absence de discipline de l'Église et l'absence d'un degré élevé de sainteté vont tuer le discernement. Dernier point. Un dernier contributeur au manque épouvantable de discernement dans l'Église aujourd'hui est l'immaturité spirituelle. Je suis convaincu que beaucoup dans l'Église ont une connaissance superficielle de la vérité de Dieu, peu profonde, et ils suivent des vues, des sentiments et des expériences populaires. Ils cherchent des miracles, des guérisons et une solution aux épreuves courantes de la vie. Ils poursuivent le confort personnel, ils veulent le succès personnel, et c'est un christianisme très peu profond. Fondamentalement, nous pourrions l'appeler le christianisme bébé. Je pense qu'il serait convenable de dire que la caractéristique qui est la plus descriptive d'un nourrisson serait ce que j'appelle l'égoïsme. Seriez-vous d'accord? Ils ne disent jamais merci pour quoi que ce soit, et ils crient s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Ils sont égoïstes. Si quelque chose caractérise l'immaturité, c'est l'égocentrisme, l'égoïsme. Regardez l'Église aujourd'hui. Elle est absolument préoccupée par elle-même. Elle veut que ses propres problèmes soient résolus et que son propre confort soit élevé. Qu'elle ne soit pas perdue, comme l'a dit l'auteur d'un cantique, dans l'émerveillement, l'amour, la louange et la focalisation sur le Seigneur. L'Église est égoïste et l'égoïsme est une preuve d'immaturité. L'Église est comme un bébé autocentré, voyant que le monde entier doit s'arrêter pour que ses besoins soient satisfaits. Il n'y a pas de discernement dans l'immaturité. Retournons à Éphésiens 4. Je veux vous montrer un verset familier, que vous connaissez déjà, mais qui explique bien ce point. Éphésiens 4, verset 14, dit ceci. « Afin que nous ne soyons plus des enfants. » Voilà pourquoi. Les enfants sont flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voilà. L'immaturité spirituelle transforme les gens en victimes. Ils ne savent pas ce qui est juste. Ils ne savent pas ce qui est faux. Ils sont tirés d'un coup sec un peu partout, poussés par des coups de vent. Ils sont facilement trompés. Comment modifiez-vous cela? Verset 15. Professant la vérité dans la charité, nous croissions. Verset 15. Partager la vérité avec amour nous aidera à grandir. Comment l'Église grandit-elle? Elle se développe par la vérité. Clarifie la vérité, parle avec amour. C'est ainsi qu'elle grandit et se construit. On parle, à la fin du verset 16, de la croissance du corps qui peut s'améliorer dans l'amour. L'immaturité ne comprend pas, tout comme un petit bébé rampant sur le sol, mais tout ce qu'il trouve dans sa bouche ne discerne pas. Il ne sait pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, nous avons tellement d'immaturité et en même temps un manque de discernement. C'est un résultat direct de l'enseignement peu profond, de la prédication, du genre étrange, bizarre et mystique, dont beaucoup d'églises sont exposées pour être considérées comme charismatiques, des sortes de choses que l'on retrouve chez les gens qui ne sont peut-être pas correctement formés selon les histoires que les gens racontent. Une prédication relationnelle qui manque de substance profonde réelle et de doctrine fondamentale, ce qui est essentiel pour que nous puissions grandir. Un dernier texte, Hébreux 5, et il affermit ce dernier point d'immaturité. Dans un autre contexte, ce principe est certainement illustré. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit à ses lecteurs dans Hébreux 5 au verset 12 « Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. En d'autres termes, vous êtes là depuis assez longtemps. Vous avez suffisamment entendu pour pouvoir enseigner. Mais le problème est, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous êtes des bébés, vous êtes là depuis assez longtemps pour être des enseignants. Mais je dois vous nourrir de lait, je dois continuer à vous donner des choses élémentaires. Vous ne pouvez pas prendre de la nourriture solide. Vous n'êtes pas habitué à la parole de la droiture. La parole, la parole, la parole. Vous avez toutes ces choses expérimentales. Vous accumulez beaucoup d'histoires. Vous avez eu beaucoup de sentiments émotionnels, mais vous ne connaissez pas la parole. Et puis au verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement et la maturité vont de pair. Assis sous la parole, comprendre la parole de la droiture, prendre de la nourriture solide, s'engager dans la pratique spirituelle, conduire, former vos sens afin de discerner le bien du mal. Donc, que vous parliez du manque de conviction doctrinale, que vous parliez d'image et d'influence comme clé de l'évangélisation, de la réticence à être absolu et de cette volonté à être relatif, que vous parliez d'une interprétation inadéquate des Écritures, ou que vous parliez de l'absence de discipline de l'Église, ou de l'immaturité, elles se chevauchent et s'entrelacent, et tous ces facteurs contribuent à la perte de discernement. Faibles sur la doctrine, nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce que nous croyons. Nous ne voulons pas être noirs et blancs. Nous ne voulons pas créer de problèmes. Nous voulons être sûrs de nous compromettre suffisamment avec le monde, afin qu'ils se sentent à l'aise, chez nous, pour que nous puissions gagner leur cœur, même s'ils interprètent au hasard les Écritures. Mais si nous sommes immatures spirituellement, nous n'avons aucun espoir de pouvoir discerner. Et pourtant l'Écriture dit, Proverbe 14, « Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. » Proverbe 14, verset 33, « Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. » Proverbe 16, verset 21, « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Proverbe 17, verset 24. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Tous ces versets sont tirés de la version Louis II. Ceux qui ne savent pas discerner se promènent sans but, mais le discernement est centré. Maintenant, certains d'entre vous sont très exigeants. Vous l'êtes vraiment. À propos de la nourriture que vous mangez, vous prenez la boîte et vous la regardez. Vous lisez toutes ces petites choses sur combien d'apports en calories. Combien de quantité quotidienne est nécessaire? Vous faites très attention, car vous souhaitez éviter tout type de pesticides, et vous voulez manger sainement. Vous êtes très conscient de cela. Certains d'entre vous sont très conscients pour les investissements que vous allez faire. Vous lisez tout cela en gros dans le journal, sur le marché boursier, dans les magazines et ainsi de suite. Vous êtes en mesure de discerner avant d'agir. Certains d'entre vous sont très prudents lorsque vous allez subir une intervention chirurgicale. Vous voulez trouver un médecin qui connaît le chemin d'entrée et de sortie. Vous êtes très, très prudent. Vous choisissez quelqu'un qui a été soigneusement analysé et qui a été recommandé. Et peut-être que vous demandez aussi un autre avis. Certains d'entre vous sont hautement analytiques sur le plan politique et vous pouvez évaluer les problèmes de la journée. Vous pouvez citer les éditoriaux de toutes sortes de magazines nationaux et vous avez tout compris en termes de gouvernement et de politique étrangère. Certains d'entre vous sont absolument inégalables en tant que champion du fauteuil. Vous pouvez évaluer toute infraction, toute défense. Vous pouvez discerner tout problème au gagnant, au perdant. Certains d'entre vous connaissent la plupart des meilleurs parmi tous. Et pourquoi ils frappent la balle de telle façon? Certains d'entre vous analysent les choses au degré près mais vous ne trouvez pas le temps pour utiliser vos facultés analytiques, pour l'étude de la parole, et de l'esprit pour discerner ce qui est bon et mauvais. Quelle tristesse! Et parce que l'Église ne sait pas discerner, elle est empoisonnée par un produit chimique mortel, qui ressemble à de l'eau vive. Maintenant, autant pour la question numéro 1. Comment devenir une personne qui sait discerner? C'est pour la prochaine fois. Prions. Père, nous demandons que, grâce au message de ce matin, nous puissions mieux diagnostiquer les problèmes qui nous entourent et commencer à définir notre façon de corriger cela. Nous ne voulons pas avoir honte. Nous voulons être comme les gens nobles de Béret, qui cherchent quotidiennement dans les Écritures pour voir si les choses sont ainsi. Nous voulons être aussi exigeants qu'ils l'étaient. Nous savons que tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton esprit, et tu nous as donné des enseignants, des prédicateurs, des écrivains qualifiés, afin que nous puissions apprendre comment discerner. Seigneur, aide-nous à avoir des convictions véritables et fortes, à lutter pour ces choses, afin de ne pas partir à la dérive. Aide-nous à discipliner, à poursuivre la sainteté. Seigneur, que nous puissions atteindre une maturité spirituelle, afin de pouvoir discerner le bien et le mal. Et t'honorer, tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour apprendre à discerner. Tu nous as donné la vérité, la parole, la norme. Tu nous as donné l'esprit pour nous enseigner. Tu nous as donné tous nos enseignants pour nous enrichir. Nous pouvons utiliser tout ce qui nous est donné afin de pouvoir discerner correctement ce qui est le plus important dans la vie. Et c'est ta vérité. Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que cela accomplira dans nos vies, en te donnant toute la gloire. Au nom de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.